Les cours du Collège de France, William Marx, chaire littérature comparée.
Mesdames, messieurs, d'abord je suis très heureux de vous retrouver, et puisqu'on est encore au mois de janvier, à la mi-janvier, je crois que j'ai encore la possibilité de vous donner tous mes voeux de bonne année, pour une année effectivement qui vient de commencer, et qui je pense est l'année de tous les dangers, me semble. Politiques, sociaux, géostratégiques, environnementaux, à l'intérieur, à l'extérieur, partout. Hein. Sauf peut-être ici au collège, et encore. Et je crois sincèrement que au cours de mon existence, et là qui commence déjà, hélas, à être un peu longue, aucune année de mon existence ne s'est présentée sous un jour si périlleux, je crois. Aucune année n'a paru si dangereuse dès son point de départ. Et donc jamais les vœux n'ont semblé si nécessaires, ni au bout du compte si vains. Alors, en ce cas, pourquoi faire de la littérature ? Beaucoup diraient, pour mieux comprendre ce monde, pour mieux pénétrer la réalité de ce monde. Et c'est ce que dit le pape dans sa lettre « La littérature » que j'ai eu l'honneur de préfacer. Il dit, voilà, il faut lire la littérature. J'y reviendrai, du reste, dans ce cours. Il faut lire la littérature pour mieux comprendre le réel. Et c'est vrai. Je ne dis pas que c'est vrai uniquement parce que c'est le pape qui le dit. Hein. Et j'y reviendrai, donc. Et beaucoup lisent de la littérature, donc, pour mieux comprendre la réalité. Je lis le roman d'Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature, qui a fait ici même 4 conférences il y a 2 années. Je lis Neige, et je comprends mieux, en lisant ce roman, je comprends mieux la Turquie actuelle, je comprends mieux la montée du radicalisme islamique que si je lisais 10 articles sur le même sujet. Je le comprends de l'intérieur. Je lis La végétarienne de Han Kang, la dernière prix Nobel de littérature, écrivaine sud-coréenne, donc, couronnée en 2024, et je comprends mieux, en lisant ce roman, les enjeux ou les raisons du végétarianisme. La couleur est annoncée dans le titre, hein, déjà, mais je comprends mieux aussi, peut-être encore plus importante, peut-être dans le roman, la condition féminine, au moins en Corée du Sud. Je comprends aussi le système d'oppression sociale dans les sociétés d'Extrême-Orient, mais pas seulement en Extrême-Orient, etc. Bref, tout cela, c'est la valeur documentaire de la littérature, c'est sa valeur historique qui intéresse pas tout le monde, et qui intéresse beaucoup les historiens. Par ailleurs, on peut utiliser les romans, la littérature, les œuvres littéraires comme tout texte venu d'un temps lointain, comme un document, comme quelque chose qui peut être étudié en tant que tel. Bon, les œuvres témoignent du monde où elles furent créées, elles témoignent de l'auteur qui les a écrites, elles témoignent des attentes du public à un moment donné, dans un lieu donné. Alors, c'est pas si simple en vérité, hein. Car cette valeur documentaire, elle est sans doute relativement aisée à établir lorsque nous sommes sous le régime réaliste de la littérature. Dans la littérature européenne, et dans le roman en particulier, du moins dans une partie du roman, ce régime réaliste ne remonte pas seulement à ce qu'on appelle le courant réaliste dans la littérature européenne, à savoir le 19e siècle, Balzac, Flaubert, ça remonte à plus loin. Ça remonte au moins au XVIe siècle, avec la vie de Lazarillo de Tormes, au mi-temps du XVIe siècle, ce roman picaresque espagnol qui nous montre toutes les strates de la société espagnole et le parcours du héros à travers le Picaro, à travers la société. Et Don Quichotte, 50 ans plus tard, au début du XVIIe siècle, ne fait que, au bout du compte, poursuivre cette veine réaliste. Donc, la veine réaliste a commencé beaucoup plus tôt. On pourrait même songer encore plus anciennement au Fabliau du Moyen-Âge, qui présente aussi la vie des paysans, des bourgeois du temps. Même dans la poésie, il y a une veine réaliste. On pourrait remonter au moins au XVe siècle avec François Villon. Je prends ici mes exemples dans la littérature française. Alors, quand on n'est pas sous le régime réaliste de la littérature, la valeur documentaire n'en existe pas moins. La littérature peut permettre d'accéder au réel. Mais cette valeur documentaire est plus difficile à cerner. Quelle est la valeur documentaire d'Édipe Roy, de Sophocle, ou d'Antigone, si je prends des pièces de théâtre. Ces pièces de théâtre, ces tragédies ne renseignent directement ni sur le temps mythique où vivent leurs héros légendaires, Édipe, Antigone, etc. Mais elles ne renseignent pas non plus directement sur les réalités de l'époque où elles furent créées. En vérité, au 5e, 4e siècle avant notre ère, en Grèce, à Athènes, si vous voulez chercher du réalisme, vous ne le trouverez pas dans ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, depuis un peu plus de deux siècles, littérature, à savoir théâtre ou poésie. À l'époque, il n'y avait pas de roman, donc ça simplifie. Donc vous ne trouverez pas de réalisme dans le théâtre ou la poésie, mais vous trouverez dans des genres que nous mettons, nous, aujourd'hui, à la marge de la définition moderne de la littérature. Vous la trouverez dans l'histoire, bien sûr, avec Hérodote, Xénophon, Thucydide. Vous la trouverez dans la philosophie, même. Je dirais que les dialogues philosophiques de Platon, par exemple, sont paradoxalement parmi les œuvres les plus réalistes que nous ayons, qui nous aient été léguées par l'Antiquité. Et je songe tout particulièrement à ces dialogues qui sont les plus précisément situés et datés, qui nous montrent Socrate en situation avec ses amis dans un lieu donné, Phèdre, vous savez, avec cette promenade sur les bords de l'Ilissos, voilà, le banquet, bien sûr, avec la situation du banquet, le Phédon, qui se passe dans la prison de Socrate, hein, etc. Donc, ces dialogues de Platon, bizarrement, on ne sait pas s'il faut la mettre dans la philosophie, dans la littérature. Ben justement, ce sont ces œuvres-là qui essaient de définir cette frontière-là. Eh bien, sont paradoxalement plus réalistes que ceux que nous appelons nous, que ce que nous appellerions nous littérature pour les textes antiques. Donc, on peut lire la littérature pour mieux comprendre le monde dont sont issues les œuvres, dont elles sont sorties. C'est tout à fait clair. Mais, j'ajouterais pour ma part, car cela correspond à mes goûts, et peut-être presque à ma conception d'un idéal littéraire, il peut y avoir plusieurs idéaux de la littérature, je crois aussi que la littérature sert aussi à s'échapper. Quand le monde est difficile, la littérature, on peut étudier de la littérature, on peut lire de la littérature pour sortir de ce monde, parce que le monde est un peu trop noir, un peu trop pénible, pour voir un autre monde à la place d'une autre. Rappelez-vous Don Quichotte, hein, je vous avais montré l'année dernière cette gravure de Gustave Doré représentant voilà Don Quichotte en train de lire et avec tout son cabinet de lecture qui se peuple de toutes les figures issues de son imagination, issues des livres qu'il est en train de lire. Don Quichotte ici substitue un autre monde au monde réel. Il substitue un autre monde à notre monde. Il substitue un monde où il se sent mieux, où il est davantage chez lui. Et chacun peut faire cette expérience. Alors, bien sûr, cette façon de lire, qui est celle de Don Quichotte, du personnage Don Quichotte, l'ingénieux Hidalgo, n'est pas la façon de lire que défend Cervantes, l'auteur du roman. Il semble au contraire que Cervantes attaque plutôt cette manière de lire. Il veut proposer un autre type de littérature contre les romans de la table ronde, contre les romans qui nous permettent de nous échapper. Bon, en fait, la position de Cervantes, elle est beaucoup plus complexe que cela, et je ne vais pas ici m'y attarder. Et en tout cas, apparemment, il nous montre quand même cette manière de lire Cervantes comme plutôt comme pathologique, comme anormal. C'est une pathologie, c'est une manière un peu datée hein, de lire, nous semble-t-il nous dire. Eh bien, si c'est une pathologie, j'admets en ce cas être atteint de cette même pathologie, j'en souffre aussi hein, de cette pathologie. Je crois que la littérature, c'est une manière de la concevoir et qui a aussi son heure de gloire, en particulier depuis le symbolisme, etc. On y reviendra. La littérature, l'art, offre une place où nous sommes chez nous, où nous sommes dans notre univers intérieur. C'est un monde à part, un monde parallèle. C'est le monde à l'intérieur de nous, en quelque sorte. Alors, s'il s'agit de mieux comprendre notre monde, le monde extérieur, j'ai des collègues ici, au Collège de France, qui font ça très très bien. En histoire, en sociologie, en civilisation, en biologie, en physique, en astrophysique. Alors, j'ai pas besoin de citer mes collègues, hein, vous les connaissez bien. vous les connaissez tous. Je dirais que tous mes collègues, je laisse peut-être de côté les mathématiciens, je ne sais pas, mais tous mes collègues sont des professeurs de réel. Bon, les mathématiques sont peut-être un cas à part, il y a des grandes discussions philosophiques sur le statut des objets mathématiques. Tous mes collègues sont des professeurs de réel. Et je crois que je suis le seul ici, dans cette institution, à être, je crois, un professeur d'irréel, à explorer ce qui n'existe pas, à explorer les fantasmes, à explorer les imaginations, à explorer les délires. Et je pense que, parfois, c'est une bonne raison pour venir à ce cours, pour changer un peu par rapport à ce que font mes autres collègues. Mais, attention, c'est quand même une sorte de science que j'essaie de vous enseigner, un savoir, en tout cas. Cet irréel obéit aussi à des lois. Cet irréel aussi appartient, en tant qu'irréel, à l'ordre du réel. Cet irréel n'est pas produit n'importe comment. Il est produit par des esprits. Il est produit par des œuvres. Il est engendré par des formes. Et je dirais que c'est une idée à laquelle tient beaucoup Paul Valéry. Rien n'est plus réel qu'une forme. Rien n'est plus réel qu'un texte, qu'une sculpture, qu'un tableau. C'est une matière. C'est quelque chose qui est là devant vous, qui va vous résister, mais qui va agir aussi. Mais ça, cette chose-là, elle est là devant vous. Le texte est formé d'unités discrètes. Après, c'est assez complexe de faire avec. Mais il est là, très réel. Le sentiment que vous avez en vous, quand vous lisez un texte, il n'y a rien de plus réel, au bout du compte. Ce sentiment-là, c'est plus réel que tout ce que vous voyez devant vous. C'est quelque chose que vous ressentez en vous-même, comme une force. Cet irréel obéit donc à certaines nécessités. Il produit des effets, il produit des conséquences, etc. Les visions de Don Quichotte ne se font pas n'importe comment. Elles sont dans un dialogue permanent avec le réel. Les géants que l'Hidalgo attaque sont grands comme des moulins. Ils ont des ailes comme des moulins. Bon, je reprends ici l'image d'Épinal, enfin, la scène la plus célèbre du roman. Pas nécessairement la plus intéressante, mais enfin une scène quand même passionnante. Et donc, on peut retrouver les moulins derrière les géants, et c'est les moulins qui engendrent les géants. Mais lorsque je lis Alice au Pays des Merveilles, ou lorsque je lis Harry Potter pour m'évader, je crois lire pour m'évader. Mais en vérité, le monde fantastique qu'on y présente n'est souvent qu'une transformation, qu'une allégorie de la réalité. Dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, dans le monde d'Harry Potter, les rapports de domination, les espérances des personnages, les valeurs qu'ils défendent, les vices qu'on y trouve, ben, ils sont les mêmes qu'ici. Il y a des méchants, il y a des bons, etc. Ils sont simplement dotés d'une puissance et de moyens d'expression décuplés par rapport au monde réel. Dans le monde réel, vous n'aimez pas quelqu'un, ben, voilà, les choses s'arrêtent là. Bon, vous êtes à la guerre, vous sortez une arme, j'en sais rien. Mais dans le monde d'Harry Potter, effectivement, il suffit d'une formule magique et puis d'un seul coup, votre adversaire s'écroule, anéanti. C'est une question de quantité en quelque sorte. C'est pas les valeurs restent en grande partie les mêmes. Bref, il existe une transformation géométrique de l'irréel qu'on trouve dans les œuvres, dans certaines œuvres en tout cas, sur le réel. Il existe une homologie. Je prends ce terme un peu mathématique, qui permet de passer de l'un à l'autre, de l'irréel au réel, et du réel à l'irréel, qui permet de retrouver le réel du monde derrière l'irréel, parce que l'irréel, c'est du réel déformé. Mais l'inverse est vrai aussi. Le réel, c'est de l'irréel déformé. Ce trajet inverse, qui consiste à aller de l'irréel au réel, c'est le trajet que l'on fait en tant que lecteur, qu'on fait en général, de manière automatique, inconsciente, puisque autrement nous ne lirions sans doute pas même ces œuvres totalement imaginaires si nous ne nous sentions pas concernés, si elles n'avaient pas un rapport avec notre monde. Et il faut bien se retrouver dans un monde parallèle, dans un monde secondaire, nous serions totalement perdus s'ils obéissaient à des lois entièrement différente d'une autre. Donc il y a du réel même dans les mondes les plus irréels. Et ce processus donc, qui permet de passer de l'irréel, même des œuvres les plus fantastiques, les plus imaginaires, les moins réalistes, au réel, ce processus porte un nom, ben, c'est la lecture. C'est la lecture, c'est l'interprétation. Et bien c'est cela l'objet du cours de cette année, c'est à savoir l'interprétation. Et donc c'est cela que nous allons voir. Alors le cours, je vais le commencer tout de suite, j'ai déjà un petit peu commencé à le problématiser, mais le cours, vous verrez, aura beaucoup de ramifications dans ce que, alors pas seulement dans ce que je dirai pendant l'heure de cours, mais aussi dans l'heure du séminaire qui suit à 18h, parce qu'il y aura un séminaire, comme d'habitude, avec des invités. Ben, tout à l'heure, hein, ce sera Delphine Horviller, que je salue, que je remercie d'être venue. Puis la semaine suivante, il y aura, je les cite ici dans l'ordre, hein, Chantal Thomas, Paolo Dortonez, Alexandre Geffen, Raphaël Baroni, Tanguy Viel, Geneviève Haroche-Bouzinac, Kamel Daoud et Déborah Bucchi. Je les remercie donc d'avoir accepté de participer à ce séminaire et d'explorer là aussi ces façons de lire et d'interpréter que nous verrons pendant le cours. Mais le cours aura aussi des prolongements à l'extérieur même du cours, c'est-à-dire de 16h, de 17h à 19h le mardi. Ce mois-ci, ainsi, j'ai un conférencier invité par l'Assemblée des professeurs sur ma proposition, qui est Thomas Schmitz, qui est professeur de littérature antique et classique à l'Université de Bonn. Il est aussi spécialiste de littérature française. Et il donnera deux conférences sur le lecteur dans la littérature grecque. Donc le lecteur, ne sortons pas du monde de la lecture, le jeudi 23 janvier à 17h30, dans l'amphi Alvax, la culture de la lecture en Grèce à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, et le jeudi 30 janvier, même heure, 17h30, lire des textes oraux, le lecteur dans la poésie grecque de l'époque archaïque. Donc je crois on sera en plein dans notre sujet de la lecture, mais dans le monde grec classique et archaïque. Et enfin, c'est pas fini, d'autres façons de lire, d'autres façons d'interpréter seront explorées à partir du 29 janvier, quand commencera, ben, je dirais, un cycle prestigieux de conférences et d'entretiens autour de la Comédie française et avec la Comédie française, ici même, avec le concours précieux de la Fondation Hugo du Collège de France. Ce sera autour en particulier de la personnalité d'Éric Ruff, qui est l'administrateur actuel de la Comédie française, qui a passé 10 années à la tête de cette grande institution, qui quitte l'institution à la fin de l'année. Donc Éric Ruff sera là à chacune de ces 7 séances, je crois. Mais il y aura aussi d'autres comédiens, Dominique Blanc, Denis Podalydès, Isabelle Nanty. Il y aura l'historienne du théâtre Florence Nogrette, et puis aussi des professeurs du collège, des collègues et amis, Thomas Römer, Pierre-Michel Minguer, Antoine Lilti, Patrick Boucheron et moi-même. Bref, je crois que pendant toutes ces séances, vous avez le programme ici, nous allons bien nous amuser, et j'espère qu'on vous intéressera aussi, j'espère. Je vous signale en particulier les deux premières séances qui approchent, c'est très bientôt, parce que ces deux premières séances, en plus, j'y serai partie prenante. Le 29 janvier à 19h, c'est ça, voilà, la Comédie française et le Collège de France, deux utopies démocratiques. Avec, point d'interrogation, bien sûr, avec les deux administrateurs des deux institutions, Éric Ruff et Thomas Römer, et puis moi-même, et le débat sera animé par la journaliste Mathilde Serrel de France Inter. Et puis, alors c'est mon petit chouchou, cette séance, c'est la séance du 12 février, à 19h toujours, un sujet qui m'est cher, dire les vers. Comment dire les vers? Voilà, ça me paraît une question extrêmement importante en littérature, pour quelqu'un qui aime la poésie. Avec Éric Ruff, et puis Dominique Blanc, Denis Podalydès, bref, une superbe distribution, dont je serai aussi, mais là, je serai vraiment un peu le mouton noir de cette distribution d'acteurs. Voilà, et puis tout le reste est très passionnant aussi, mais vous pouvez voir ça, et tout ça est en ligne sur le site du collège, vous regardez dans les grands événements, puis bientôt ce sera mis en page d'accueil du collège, il y aura une affiche, etc., etc. Bref, donc nous parlerons pendant cette séance, nous parlerons donc de la lecture aussi, mais de la lecture à haute voix, de la récitation, du jeu, Hein. Cette lecture à haute voix qui a été la règle pendant tant de siècles, hein, dans l'Antiquité, et puis jusqu'il y a encore assez peu de temps, et qui n'a été qu'assez récemment remplacée par la lecture silencieuse, comme étant cette lecture silencieuse qui serait l'idéal de la lecture. Mais on peut renverser les choses. Hein. La lecture à haute voix, je crois que c'est une magnifique manière d'entrer dans les textes. Personnellement, moi, je lis souvent à haute voix, chez moi, tout seul, hein, quand personne ne m'entend. Et c'est y a pas mieux pour entrer dans un texte. La lecture, le jeu, l'interprétation, c'est le sujet, évidemment, propre de la Comédie française, mais ce sera aussi le sujet de notre cours, à nous ici, hein, ici même. Lire les textes, interpréter les textes, jouer avec les textes, jouer avec les textes. Ça me paraît très important. Voilà, mais c'est ce qu'on va faire ici. Alors, je terminais ainsi l'an dernier mon cours, qui s'intitulait déjà « Comment lire ». Cette année, c'est « Comment lire suite ». Alors, excusez-moi de m'autociter, je crois que c'était les derniers mots que je disais à la fin de mon cours, à la dernière séance. Il n'y a pas de liberté de lecture sans prise de conscience des diverses façons d'interpréter. Nous voici donc arrivés au seuil du paradis, de l'Arcadie. Nous avons entreaperçu par vision fugitive l'expérience du bonheur de lire. C'est en effet le thème que nous avons traité l'an dernier, hein, cette idée du plaisir de lire, du bonheur de lire, non pas seulement comment lire, mais pourquoi lire? Pourquoi est-il intéressant de lire? Pourquoi est-il intéressant de savoir comment lire? Précisément parce que la lecture procure un certain bonheur. Et c'est ce qu'on a vu l'an dernier. Mais des menaces, j'en parlais tout à l'heure, des menaces planent sur cette Arcadie, cette société inassociée, c'est une expression de Pascal Quignard, cette société des amis du texte. C'est l'expression, c'est la formule de Roland Barthes. Il ne suffit pas de savoir comment lire, il faut encore savoir comment interpréter, ne pas s'enfermer dans une seule signification. Ce sera, vous l'avez compris, l'objet du cours de l'an prochain. Et je me projetais donc dans cette séance-ci. L'an prochain, je continuais, j'ai terminé là-dessus. L'an prochain, je continuerai et nous parlerons alors de l'interprétation des livres et des textes. Ce sera toujours comment lire, mais dans le sens de comment interpréter. Ben voilà, tout est dit. Mon introduction est faite, nous parlons effectivement de cette question de l'interprétation. Mais vous comprenez aussi pourquoi j'ai intitulé cette leçon « Et in Arcadia ego hein, », avec cette idée de l'Arcadie qui est là présente, du bonheur de lire. Une traduction possible de cette formule latine, sans préjuger, mais j'en parlerai, des débats sur cette traduction, comment comprendre cette formule « Et in Arcadia ego », une traduction possible, c'est ce serait « moi aussi, j'ai été en Arcadie ». Et le romancier, je citais l'an dernier, je citais le romancier Marc Potrel dans son dernier roman, enfin son avant-dernier roman, ou plutôt pas roman, récit, « L'île au trésor », paru en 2024, raconte, enfin, de manière confidentielle. Il disait, moi aussi, il écrivait ceci, moi aussi je serai en Arcadie. Ce qui est une autre manière de comprendre le et ego in Arcadia. Moi aussi je serai en Arcadie. Et il voulait dire, je serai en Arcadie quand j'aurai le temps de lire. Quand j'aurai le temps de lire. Et il faisait référence ici à son père, son propre père, qui s'est mis à lire démesurément une fois qu'il a été à la retraite. C'est quelqu'un qui ne lisait pas. Et une fois qu'il a été à la retraite, il s'est mis à lire, à dévorer les livres. Et ma foi, je pense que nous aussi, nous pouvons nous dire, moi aussi, je serai en Arcadie le jour où j'aurai le temps de lire, mais c'est un temps qu'il faut essayer de saisir. Oui, l'Arcadie comme le bonheur de lire. Alors l'Arcadie, c'est le nom que l'on donne à un paradis perdu, un paradis lointain. Mais quand je dis paradis perdu, paradis lointain, on est un peu dans la Bible déjà, mais là on est déjà dans l'irréel. Mais cet irréel n'est que la déformation d'un réel. L'Arcadie, d'abord. Ben, l'Arcadie, c'est une région montagneuse, que vous voyez ici en rouge, hein, vous reconnaissez la Grèce, ici. C'est une région montagneuse du centre du Péloponnèse, en Grèce, en retrait de tous les flux humains, loin de la mer, bon, il y a une bordure maritime, mais l'essentiel est quand même au cœur du Péloponnèse, loin de tous les touristes, il n'y a pas grand-chose à voir en Arcadie pour les touristes. C'est vraiment une région naturelle, sauvage. En dehors du temps, loin de tous les flux, je vous ai dit, désertique, sauvage, et peuplée seulement de bergers. J'en parle en connaissance de cause. Parce que, alors j'ai pas été berger en Arcadie, Mais j'ai été en Arcadie, moi aussi. Et in Arcadia ego. Je suis allé en Arcadie il y a quelques années, et c'était phénoménal, je veux dire. J'ai croisé sur ces routes d'Arcadie des troupeaux de chèvres sur les routes, déambulant, tout seul, hein, comme ça. C'était extraordinaire. Et le plus étonnant, l'une des visions les plus étonnantes de mon existence, c'était un cheval blanc galopant, solitaire, sur la route. Et comme ça, devant ma voiture. J'étais là, je conduisais, puis il y avait ce cheval blanc qui était là, devant. Et il n'y avait pas âme qui vive. C'était tout seul. Il y avait juste ce cheval blanc qui était là, comme un dieu qui irait devant vous alors que vous conduisez tranquillement votre véhicule. C'était vraiment une vision fantastique où la réalité rencontre la légende. Alors l'Arcadie, c'est peut-être le lieu, effectivement, où la légende va transpire dans la réalité, mais l'Arcadie réelle, la voici. C'est une photo que j'ai prise moi-même, c'est un montage de deux photos. Bon, excusez-moi de vous montrer mes photos de vacances, mais voilà, c'est une région sauvage, montagneuse, assez désertique, avec beaucoup de chèvres, de moutons et de chevaux. Et on y vénère depuis l'Antiquité le dieu arcadien par excellence, qui est le dieu Pan. Pan, hein. Dieu des bergers, dieu des troupeaux, c'est là qu'est né le culte de Pan. C'est le dieu de l'Arcadie. Alors, ça c'est l'Arcadie réelle. Bon. Mais il y a un mythe arcadien, il y a un mythe de l'Arcadie qui s'est développé à partir de la littérature, à partir de la poésie, et d'abord à partir de la poésie pastorale grecque et latine. Quelques étapes ici. Vous avez les idylles de Théocrite, donc en grec, là. On est au IIIe siècle avant notre ère, qui raconte voilà, des poèmes autour de bergers, des histoires d'amour entre eux. Et puis, vous avez, inspiré des idylles de Théocrite, vous avez les bucoliques de Virgile. Là, on est en latin, on est à la fin du Ier siècle avant notre ère, qui raconte là aussi les histoires amoureuses de bergers. Et il est parfois question d'Arcadie dans ces poèmes, mais assez peu en vérité. En vérité, les idylles de Théocrite se passent surtout en Sicile, qui est l'île dont est originaire Théocrite. Hein, on est en ce qu'on appelle Magna Graecia en latin, la Grande Grèce, hein, c'est-à-dire cette partie de l'Italie qui parle grec. Donc c'est la Sicile est la patrie de Théocrite. Et puis, alors il y a quelques bucoliques, en particulier la dixième bucolique, qui se passe en Arcadie, qui est parfois nommée, mais le plus souvent, les lieux où se passent les bucoliques, les lieux virgiliens, ne sont pas à l'Arcadie. Ça ne se passe pas en Grèce. Ça se passe, en fait, dans l'Italie, sur la péninsule, et dans l'Italie cisalpine, dans le nord de l'Italie, en vérité, qui est la région d'origine hein, de Virgile. Et en fait, la littérature pastorale antique, à laquelle on associe en général l'Arcadie, on dit voilà, l'Arcadie c'est un lieu de bergers, cette littérature pastorale qui met en scène des bergers, en fait elle peut adopter n'importe quel lieu, pas nécessairement l'Arcadie. Il y a la Sicile, il y a l'Arcadie bien sûr, il y a Lesbos, l'île de Lesbos. Le roman de Longus, Daphnis et Chloé se passe sur l'île de Lesbos. Il y a aussi des histoires ou des poèmes pastoraux qui se passent en Asie mineure, donc dans l'actuelle Turquie, ou bien dans l'Italie cisalpine, donc le nord de l'Italie. Bref, tout ça, il n'y a pas de lieu dédié absolument dans la littérature antique aux récits pastoraux, aux amours pastorales. Il y a peut-être un léger privilège pour l'Arcadie à cause du culte pastoral de Pan. Pan qui est le dieu des bergers. Mais en vérité, l'Arcadie est moins un mythe antique qu'un mythe moderne. C'est un mythe de la Renaissance. Parce que c'est à la Renaissance, sous l'influence de Virgile, que le mythe s'est vraiment fixé en Arcadie. Peut-être parce que les auteurs de la Renaissance, les premiers auteurs de la Renaissance, étaient des Italiens. Donc ils voulaient placer leur pays mythique ailleurs, loin, et en Grèce, hein, justement. Et ça a commencé avec le succès du roman et poème pastoral de Jacopo Sannazzaro, l'Arcadie, Arcadia, hein, un roman tout à fait étrange, qui est un peu dans tous les sens, en vers et en prose, qui date de 1504. Et c'est à partir de ce roman de Saint-Lazaro, qui a eu un succès gigantesque, européen, que le mythe arcadien s'est développé. L'un des exemples de ce mythe arcadien, dans une autre langue, c'est le roman en prose pastoral, là aussi, l'Arcadie, Arcadia, hein, de Sir Philip Sidney, qui date de 1593, qui en fait est de publication posthume, mais qui a eu surtout une influence au début du XVIIe siècle. Et en vérité, ben, voilà, ces deux textes parlent vraiment de... Ça se situe en Arcadie, mais en fait, le mythe arcadien, comme dans l'Antiquité classique, peut se développer dans plein d'autres lieux que l'Arcadie grecque. Pensez simplement, tout peut devenir Arcadie, en vérité. Tout peut devenir Arcadie. L'Astrée d'Honoré d'Urfé, roman pastoral par excellence, on pourrait dire presque un roman arcadien, ne se passe pas en Arcadie, ça se passe dans le forêt, je crois qu'on dit, hein, sur les bords de la Loire, près de Saint-Étienne, entre la Loire et le Lignon. Tout peut devenir Arcadie sous la plume d'un romancier. Et dans Don Quichotte, dans le premier et le deuxième tome hein, du roman, rencontre à plusieurs reprises des jeunes gens qui quittent la ville pour vivre la vie de berger, et pour vivre le mythe arcadien. Dans le deuxième tome, il rencontre des jeunes filles qui se déguisent en bergères pour vivre la vie des romans pastoraux. Donc le mythe arcadien a été très populaire, vraiment très présent, le mythe pastoral d'abord. Mais l'Arcadie, on peut la faire revivre partout. Alors si vous voulez avoir davantage de détails là-dessus, je peux vous conseiller le livre de Françoise Lavocat, Arcadie malheureuse, aux origines du roman moderne. Elle montre comment le roman moderne est né par réaction au roman pastoral, précisément pour proposer une sorte de réalisme par rapport au roman pastoral. Alors, en fait, comme je viens de vous le dire, la grande fortune de l'Arcadie, elle arrive à la Renaissance et au XVIIe siècle. Hein. Et donc, il y a une grande différence entre l'Arcadie moderne, c'est-à-dire l'Arcadie de la Renaissance, qui est une Arcadie mythique, et l'Arcadie antique, celle de Virgile, celle de Théocrite, qui n'est pas mythique du tout. Elle n'est pas mythique. Hein. L'Arcadie de Virgile, elle était lointaine. Quand il parlait d'Arcadie, il ne parlait pas que d'Arcadie. Je l'ai dit, il parle aussi de l'Italie, etc. Il met ses bergers aussi en Italie. Mais quand il en parle, c'est un lieu qui est encore contemporain. C'est une Arcadie qui se passe en Grèce, mais dans l'Arcadie de Virgile, on connaît le nom de César. Donc, c'est un lieu contemporain de Virgile. Si vous voulez, l'Arcadie de Virgile, c'est comme pour nous le Larzac. Oui, c'est ce plateau, ces causses de l'Aveyron, voilà, un pays rural dans l'Aveyron, qui est loin de tout, mais qui est, en fait, c'est le problème, c'était le problème dans les années 70, hein, qui est contemporain des camps militaires et des centrales nucléaires, d'où les manifestations que vous voyez ici avec la DS, etc., des paysans du Larzac, etc. Bref, voilà ce que c'est que l'Arcadie, pour Virgile. C'est un lieu qui est contemporain du Virgile. L'Arcadie de la Renaissance, elle, ce n'est pas le Larzac, justement. C'est très différent. Le Larzac est plus proche de l'Arcadie de Virgile que de l'Arcadie de la Renaissance, paradoxalement. En fait, ce qui s'est passé à la Renaissance, avec la modernité, c'est qu'on a rajouté une seconde dimension à cette région de Grèce, qui n'était pas encore un lieu mythique dans l'Antiquité. On a rajouté la dimension temporelle, l'éloignement temporel. L'Arcadie de la Renaissance est non seulement lointaine, mais elle est ancienne, ce qui fait une double distance. Ce qui en fait un univers encore plus inaccessible, puisque aucun voyage ne permet de s'y rendre, sinon la machine à remonter le temps de Wells. Alors, il y a encore aujourd'hui, ce mythe est très présent, il y a des entreprises modernes de redécouverte de l'Arcadie. Je ne citerai que ce très joli récit du romancier nigérian Ben Okri, qui écrit en anglais, In Arcadia, avec, vous voyez, une reproduction du tableau de Poussin, mais je vais venir à ce tableau de Poussin, paru en 2002, traduit aussi en français en 2003, et qui est un parcours de l'Arcadie contemporaine, avec par l'auteur, l'Arcadie du XXe siècle. Donc, cette Arcadie suscite encore une fascination, mais c'est une fascination bien différente de celle du temps de Virgile. L'Arcadie de Virgile était un monde loin du pouvoir et loin de la ville. C'était un lieu de l'innocente simplicité, voilà, le Larzac, en quelque sorte, un pays rural. L'Arcadie moderne, c'est autre chose. Au-delà de l'innocente simplicité, c'est aussi l'idée du paradis et d'un paradis perdu. Et il faut savoir tout cela pour comprendre ce thème de « Let in Arcadia ego » qui a donné lieu à un tableau célèbre de Nicolas Poussin, en fait qui a donné lieu à deux tableaux de Nicolas Poussin, je reviendrai là-dessus. Et ce tableau-là, le deuxième, ceci se trouve au Louvre, vous pouvez encore le voir au Louvre. Et ce tableau de Poussin, qu'on appelle soit « Et in Arcadia ego », soit « Les bergers d'Arcadie », ce tableau est l'un des plus commentés de toute l'histoire de la peinture. La bibliographie sur ce tableau est immense, considérable. C'est vraiment le paradis des interprètes. C'est pourquoi j'ai trouvé intéressant de commencer ce cours par justement une image, mais pas une seule image, c'est une image avec du texte. Une image qui se présente précisément comme un problème d'interprétation. Et c'est parce que donc c'est à ce titre que ce tableau m'intéresse, qu'il nous intéresse, parce que c'est un objet à lire. Il parle de l'Arcadie, il parle de la lecture. On voit, il y a une inscription là qui est en train d'être déchiffrée, j'y reviendrai. Enfin, il parle de la lecture. C'est une manière de dire, il la montre, cette lecture. C'est ça le problème, c'est que le tableau, lui, est silencieux. Même s'il montre une inscription, le tableau lui-même est silencieux, et il faut l'interpréter. Et toute l'ambiguïté du tableau est dans ce silence de la peinture, autour d'un texte qui lui-même est là, présent, pourra le déchiffrer, est in Arcadia ego, mais qui est rendu dans le silence. Et c'est dans cette tension-là que se situe la difficulté du tableau. Et donc, c'est de ce tableau que je voudrais parler aujourd'hui. J'en parlerai aussi, je pense, la semaine prochaine. Un tableau sur le déchiffrement et un tableau qui exige lui-même d'être déchiffré. Je vous l'ai dit, nous sommes avec ce tableau dans l'irréel. Oui. On est dans l'irréel, on est dans cette Arcadie de la Renaissance et du XVIIe siècle, avec des bergers idéalisés. Ils ont des bâtons de bergers, des houlettes de bergers, avec cette nature idéale, qui n'est pas si loin quand même des photos de voyage que je vous ai montrées tout à l'heure, même si Nicolas Poussin n'était jamais allé en Arcadie, mais c'est pas totalement inadéquat à la réalité de l'Arcadie, avec donc cette nature idéale, et puis ce bloc de pierre posé au milieu de la nature, comme la manifestation d'un autre, d'une altérité, au milieu du même. Voilà, vous avez cette nature idéale, et puis là, ça tombe. Vous avez ce bloc de pierre, un tombeau sans doute, qui est là au milieu. Tout de suite, pensant à ça, et me disant ça, j'ai pensé au tableau, au poème sonnet célèbre de Mallarmé, le tombeau d'Edgar Poe. Mallarmé orthographie Edgar avec un D. Bon, je ne vais pas le lire en entier, c'est un hommage à Edgar Poe qui a été lu à Baltimore. C'est une commande qu'on a faite pour une cérémonie en l'honneur du poète américain. Mais je lis les deux derniers tercets, ou du moins à partir du deuxième vers du premier tercet. Donc il s'agit de cette mort de Poe. Et il dit ceci: si notre idée avec le, sans doute le grief dont il parle, si notre idée avec ne sculpte un bas-relief dont la tombe de Poe éblouissante s'orne, calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur, que ce granit du moins montre à jamais sa borne au noir vol du blasphème et part dans le futur. Bon, je ne vais pas commenter ce poème, ça nous amènerait trop loin, mais le calme bloc ici-bas, je suis d'un désastre obscur, vers célèbre, ici, m'est venu spontanément, c'est le problème des comparatistes, ils ont toujours un peu des idées qui leur viennent, pas si bonnes parce que ça parfois, mais j'ai eu cette impression, voilà, d'avoir ce calme bloc ici-bas, je suis dans des structures qui arrivent au milieu, il y a un désastre qui arrive au milieu de cette nature idéale. Et qui est, c'est un peu ça aussi que nous raconte, semble-t-il, le tableau de Poussin. Alors, il y a ce bloc issu d'un désastre obscur, et, pardonnez le comparatiste, ou au comparatiste plutôt, vous reconnaissez, hein, 2001 Odyssée de l'espace. Hein, 2001 Odyssée de l'espace, le film de Stanley Kubrick, c'est au début du film, moi j'ai pas trop de scrupules à montrer cette image du film qui est quand même considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma, mais on songe à ce fameux bloc noir, mystérieux, jeté au milieu des singes. Alors, entre les singes et les bergers de l'Arcadie, je ne sais pas, je ne veux pas être désobligeant ni vis-à-vis des bergers, ni vis-à-vis des singes, mais voilà, il y a quelque chose qui arrive, un calme bloc qui est là, qui renvoie à quelque chose qu'on ne sait pas quoi. C'est une altérité qui est là, une transcendance, je ne sais pas, nous ne savons pas encore. Voilà. Et donc c'était, excusez-moi de faire naviguer mon imagination entre des différentes, ce que m'évoque ce tableau de Poussin. Bref, j'en étais là de mes réflexions, à faire des rapprochements plus ou moins congrus. J'étais dans l'irréel, et tout à coup, j'ai été projeté dans le réel, mais brutalement. J'étais dans le métro. Je préparais mon cours, j'y pensais, etc. Et qu'est-ce que je vois? Ben alors, c'était il y a la semaine dernière. À croire que les publicitaires suivent le programme de mon cours. Alors oui, donc je vois cette publicité pour un parfum, Lampica Homme. Alors, on retrouve ici le calme bloc, hein, le calme bloc de Mallarmé, mais c'est un flacon de parfum. C'est un peu différent. L'image, vous voyez, a été transformée. Hein, c'est plus du tout la nature idéale. Enfin, on retrouve l'arbre quand même. C'est la seule chose qui a été conservée. On retrouve les bergers, enfin, deux bergers en tout cas. Il y a une maison qui a été ajoutée ici. Il y a une sorte de blockhouse qui a été installée là. Je ne sais pas pourquoi. On voit encore des arbres derrière. Enfin, c'est beaucoup plus minéral. Beaucoup plus, je dirais pas urbain, mais c'est vrai que c'est une image qu'on trouve dans le métro. Hein. C'est bizarre ce blockhouse, hein, quand même. Et puis les deux personnages de droite, vous avez, ont disparu, pouf, censurés. Vous savez, c'est comme dans les photos des grandes époques soviétiques, on faisait disparaître les généraux qui avaient trahi ou qui n'étaient plus en odeur de sainteté. Enfin, on parlait pas de sainteté à l'époque en Union soviétique. Bref, il en reste quand même, vous voyez, de ces deux personnages. Il en reste un fantôme flou, hein, qu'on reconnaît, on voit à peu près une ombre. L'image a été photoshopée, hein, comme on dit, retouchée, mais quand même c'est un peu sale, hein, comme ils n'ont pas donné beaucoup de mal. Ils ont rajouté un drap, je crois qu'on ne voit pas ce drap, enfin c'est peut-être le reste de la robe peut-être de la bergère. Je pense qu'un vrai faussaire aurait agi plus soigneusement, hein, que ça. Mais là, alors, et quand même, quelle intrusion du réel le plus cru, le plus commercial dans ce tableau sur l'idéal. Mais quand même, au bout du compte, c'est cela que raconte le tableau de Poussin. Le tableau de Poussin raconte ça, c'est-à-dire l'apparition d'un intrus. Hein. C'est cela, vous avez un intrus qui arrive au milieu de la nature idéale. Alors ici, l'intrus, c'est le tableau de Poussin. C'est un tableau, le tableau de Poussin. C'est un tableau sur l'autre, avec un grand A, sur l'irréductible, sur ce qui doit être interprété pour être assimilé. Alors, chez Poussin, c'est un tombeau, c'est une inscription, et dans la publicité, ben, c'est une publicité, c'est un parfum. Voilà. Alors, chez Poussin, vous avez, au milieu de l'Arcadie idéalisée, vous avez la mort, ou le mort, vous verrez, c'est une question qui s'est posée. Et puis, dans la réclame, c'est pas la mort ou la mort, hein, non, c'est un objet de consommation, au milieu d'un tableau classique. Et un objet, vous voyez, qui paraît plus vivant que son cadre. Cet objet, ce flacon de parfum, est en couleur, quand le reste est en noir et blanc. Donc voilà donc un parfum qui est supposé mettre de la couleur et de la vie dans l'existence grisâtre quotidienne. C'est un peu ça le message qui nous est donné. Et à bien des égards, l'image publicitaire ici veut nous raconter l'inverse du tableau de Poussin. Tableau de Poussin, lui, elle veut nous raconter donc l'irruption de la vie au milieu d'une sorte de vie terne. Dans le tableau de Poussin, au contraire, c'est les bergers qui sont colorés et vous avez ce bloc de pierre qui, lui, est terne et qui est d'une couleur monotone et qui, lui, va au contraire être beaucoup plus menaçant. Bref, avec cette publicité, nous ne sommes pas dans l'interprétation. Hein, ce n'est pas une interprétation du tableau qui nous est donnée. Mais nous sommes plutôt dans le détournement ou dans la référence. Hein. L'interprétation veut dire quelque chose, voudrait dire quelque chose, une interprétation voudrait dire quelque chose de l'œuvre. Hein. Ici, la réclame ne veut rien nous dire du tableau de Poussin, ce n'est pas son sujet. Elle se contente d'utiliser le tableau du XVIIe, elle le détourne, elle le met à son service, au lieu de se mettre au service du tableau. Et la différence ici entre interprétation d'un côté et détournement ou utilisation de l'autre, elle est bien claire. Et pourtant, parce qu'il y a quand même des nuances ici à apporter, aucun détournement d'une œuvre ne peut se faire sans s'appuyer sur les propriétés de l'œuvre qui est détournée. Détourner, c'est prendre un ou plusieurs paramètres de l'œuvre, c'est les renforcer, c'est les dévier, c'est les annuler, c'est les inverser. Bref, le détournement de l'œuvre, en exploitant les propriétés de l'œuvre, ce qui est fait ici, en exploitant ses caractéristiques, il signale ses caractéristiques aussi par la même occasion. Et en l'occurrence, le principal détournement qui est opéré par l'image publicitaire consiste à substituer, ou plus exactement, à surimposer un objet au tombeau qui suscite, originellement, la curiosité des bergers. C'est une opération très classique, hein, au demeurant, dans tout détournement, une opération d'ajout, de substitution d'un élément à un autre. On ajoute un élément dans le tableau, le flacon, on en supprime d'autres aussi, les personnages, hein, de droite, et puis on substitue cet élément à un autre, le tombeau, cette flacon de parfum, on le substitue en tant qu'objet d'attention ou que centre d'attention des bergers, qui ne s'intéressent plus au tombeau, mais au flacon. Bref, ce faisant, et malgré ou plutôt à cause de cette opération de substitution, quelque chose subsiste, hein, dans l'opération, et est même souligné par la substitution. Si quelque chose subsiste, c'est une constante du tableau, en quelque sorte. Et cette constante, c'est que le fait que le tableau porte précisément sur cette question de l'intrus, de l'intrusion d'une altérité dans un ordre donné. L'Arcadie, ou bien notre monde, à nous, ici, c'est ce monde grisâtre des bergers. Autrement dit, le détournement de l'image accentue, par comparaison avec l'image originelle, c'est toujours intéressant de comparer, je suis comparatiste, nous sommes en littérature comparée ici, le détournement accentue les propriétés intrinsèques de l'image et puis nous les révèle. Le détournement n'est pas lui-même une interprétation, mais il s'appuie sur une interprétation préalable de l'œuvre, une interprétation plus ou moins explicite qui a été faite par les publicitaires. Et l'étude de l'efficacité de cette image publicitaire, de son mode opératoire, la comparaison avec l'œuvre première, a une valeur interprétative. Il y a donc un lien quand même entre détournement et interprétation. La frontière entre les deux n'est pas si étanche. Bref, toute référence à une œuvre se fonde sur une interprétation, qu'on le veuille ou non, qu'on en ait conscience ou non. Une autre leçon de ce détournement, c'est que le tableau de Poussin était suffisamment connu, je vous ai dit c'était un tableau très connu, mais il était suffisamment connu des publicitaires pour qu'ils choisissent de l'utiliser. Hein. Mais cette connaissance, remarquez, n'est pas nécessaire à la compréhension de la réclame. Hein. L'image publicitaire fonctionne assez bien séparément de la connaissance qu'on peut avoir par ailleurs du tableau de Poussin. Inversement, si vous connaissez le tableau d'origine, ça ne vous empêche pas de comprendre la réclame. Je dirais même que ça ajoute un sel supplémentaire, ça ajoute une ironie, ça crée un effet de connivence entre la réclame, la marque, et le spectateur. Et c'est peut-être ça, du reste, qui est recherché par les publicitaires et par la marque en question. Il s'agit d'aller au-delà de la clientèle habituelle de la marque de parfum, qui, à ma connaissance, je regardais un petit peu, je ne suis pas très spécialiste. Hein. Cette marque-là, Lampica, c'est seulement une marque de moyenne gamme, hein, si j'en juge par les prix. Mais il s'agit d'aller chercher une clientèle plus cultivée, plus aisée, une clientèle CSP++. Hein. Et donc, le tableau de Poussin sert d'appât pour repositionner la marque de parfumerie et élargir sa clientèle vers une clientèle plus riche, plus aisée, sans perdre la clientèle existante. Et je dirais que même que le caractère, ça m'avait intéressé tout à l'heure, le caractère maladroit et sale de la retouche, s'il est volontaire, ce qui n'est pas sûr, semble presque faire clin d'œil vers les consommateurs plus cultivés. Mais peut-être que je suis déjà là dans la surinterprétation, qui est le péché de toute interprète. Encore un point sur l'image publicitaire. Je suis désolé, on ne devrait jamais prendre le métro. J'ai eu la curiosité quand même de voir s'il y avait un rapport plus profond entre ce parfum et le tableau de Poussin. Donc j'ai essayé de regarder ce que dit la marque sur ce parfum. Ben voici ce qu'elle dit. Une force et une émotion nouvelles. L'Empica Homme revisite la saveur tendre et corsée du bois de réglisse. La fragrance allie une fraîcheur intense et fusante. J'ai découvert ce verbe, je dois vous dire, les publicitaires sont pleins de ressources lexicales. Une fraîcheur intense et fusante a une nouvelle sensualité épicée. Une empreinte virile et sensuelle associant facettes boisées et gourmandes. Gourmandes, comme ça aussi. Donc il y a plusieurs facettes boisées, mais une seule facette gourmande. Un départ ultra-moderne stimule l'essence et invite à l'abandon. À la virilité et à la profondeur du bois de réglisse répond la facette romantique et poudrée du bois de violette. L'Empica Homme est une fragrance intrépide et désarmante. Vous voyez les deux, le paradoxe, qui attire irrésistiblement et dévoile une histoire. Ah, se dévoiler l'histoire, ça m'intéresse, on y revient. Entre forces et émotions, l'Empica Homme offre une puissance boisée, unique et originale. L'Empica Homme répond à son engagement pour le respect et la protection de l'environnement des animaux. Conçu avec des ingrédients naturels de qualité, l'Empica Homme est labellisé One Voice, 100% vegan. Ce parfum ne contient aucun colorant, filtre ni perturbateur endocrinien. Et puis il y a la description du parfum, les bouquets, notes de tête, absinthe, lierre, anis, notes de cœur, bois de violette, orgeat, rhum, notes de fond, bois de cèdre, bois de réglisse, ciste, vanille, musc. Je précise que je ne suis pas payé par la marque. Alors, vous remarquez que ce texte, quand même, n'est pas vraiment un commentaire du tableau de Poussin. Non. Donc, alors, quel serait le rapprochement avec l'Arcadie? Alors, j'en verrais quand même, il y a le bois qui est très présent. Voilà, ça, c'est le côté arcadien, naturel. Il y a la nature qui est à la fois ultra-moderne. Bon, c'est le flacon de parfum. Mais il y a quand même le bois. Il y a dans les plantes qui sont présentes, l'absinthe, le lierre. Le ciste, surtout. Le cissa, ce sont des plantes qu'on trouve dans la poésie virgilienne. Donc, il y a un côté un peu virgilien, peut-être, dans les notes du parfum, mais c'est vrai que c'est une plante, le ciste est une plante typiquement arcadienne. Bon. Donc, le lien n'est pas évident entre la description du parfum et le commentaire du tableau. Je vous ai dit, ce qui m'intéresse peut-être, c'est que ce parfum dévoile, on dit que ce parfum dévoile une histoire. Et c'est peut-être ça qui est intéressant, justement. Et parce que c'est aussi ça que dit le tableau, à certains égards. Il désigne une histoire mystérieuse. Et c'est ça que peut-être veut nous dire à la fois la réclame publicitaire et puis le tableau de Poussin. Il y a quelque chose qui se passe, mais on ne sait pas trop quoi. Voilà. Dans une nature avec du bois, du ciste, de la réglisse, bon, du rhum, ça je sais pas. Mais donc la question que pose le tableau, et c'est peut-être pour ça qu'il a été choisi par les publicitaires aussi, c'est quelle histoire? Qui sont ces bergers? Que font-ils? Quel est ce monument de pierre? Que dit l'inscription? Autant de questions qui se posent aux spectateurs qui sont mobilisés. Nous sommes mobilisés en tant qu'interprètes. Et donc ici nous entrons dans le monde des hypothèses plus ou moins convaincantes. Alors, je vais vous donner deux exemples contraires, je ne pourrais en montrer qu'un seul, en vérité, pour l'instant, deux façons d'interpréter exactement inverse. Une première façon d'interpréter consisterait à désacraliser l'œuvre, à la rabattre totalement sur notre monde. C'est à peine une interprétation, vous allez voir. La voici. C'est un petit distique de Paul Jean Toulet, le poète fin 19e, début 20e, Paul Jean Toulet, donc l'auteur des contre-rimes, et vous trouvez ce petit distique dans la section « Sur quelques tableaux », dans un recueil posthume, mais les poèmes de Toulet sont tous posthumes, depuis question posthume, qui s'appelle « Les vers inédits », Et sur quelques tableaux, cette section-là porte, il y a des distiques sur différents tableaux. Et en particulier, vous avez un distique intitulé « Sur les bergers d'Arcadie du Poussin ». Du Poussin à l'italienne, hein. « Il Pulcinello », quelque chose comme ça. Hein. Voilà. « Regarde, lui dit-il, ce qu'a dicté la lyre. Je t'aime, lui dit-elle, et je ne sais pas lire. » Alors, c'est littéralement sur les bergers d'Arcadie, puisque réellement on peut mettre ces paroles sur le tableau, comme je viens de le faire. C'est quasiment comme des phylactères, hein, attachés, phylactères de bande dessinée, je veux dire, attachés aux deux personnages de droite. Hein. Vous avez le berger rouge qui dit « Regarde ce qu'a dicté la lyre hein, », c'est l'inscription, et elle lui répond ah, « ben, Non, je t'aime, très bien, mais je ne sais pas lire. Hein. » Alors, ça me rappelle cette façon de faire, ça me rappelle un jeu pratiqué dans The New Yorker, vous savez, la revue américaine. C'est un jeu chaque semaine, on vous donne un dessin silencieux, muet. Il s'agit d'inventer la légende d'un dessin humoristique. C'est un concours entre les lecteurs. Parfois, le dessin n'a rien de drôle en lui-même. Le tableau de Poussin n'a rien de drôle en soi. Hein. Mais c'est la légende qui est chargée de le rendre comique. Ben, voilà ce que fait un peu Toulet, qui ne lisait pas le New Yorker, bien entendu. Donc c'est un exercice très formateur où il s'agit de s'entraîner au décalage entre les paroles et l'image et où l'on doit créer un effet de surprise. Donc Toulet préfigure en quelque sorte le jeu du New Yorker. Alors, ce jeu-là correspond au développement d'un, ce qu'on appelle le ton du burlesque. Hein. Il s'agit de rendre quotidien et trivial ce qui paraît plutôt noble et antique. Ben, le burlesque, vous savez, c'est ce qu'on a, ça s'est beaucoup développé au XVIIe siècle. Hein. Vous connaissez le roman de Scarron, le Virgile travesti, où on fait parler les héros de Virgile, de l'Énéide, comme des charretiers. Hein. C'est une grande tradition classique, le burlesque. Il s'agit de créer un décalage entre le sujet et la tonalité. Et donc, ce distique, ici, ces deux vers, nous disent quelque chose de l'insignifiance du texte écrit, de l'insignifiance de la poésie par rapport à l'émotion et par rapport au sentiment. Comme si la bergère, celle qui est en jaune, alors je dis la bergère, c'est sous bénéfice d'inventaire. Est-ce une bergère ? Là aussi, c'est une question qu'il faudra poser. Comme si la bergère niait l'importance de ce qui semble constituer le sujet même du tableau, à savoir la lecture. C'est un tableau sur la lecture. Hein. Mais là, elle nie. Elle dit non, en fait, moi, je ne sais pas lire. Donc, ça ne m'intéresse pas, toute cette histoire. D'où l'effet comique qui repose sur le parallèle grammatical entre, ben, vous voyez, hein, c'est assez bien fait, hein, c'est basique, mais enfin c'est bien fait. Entre les paroles grammaticales, entre les deux premiers hémistiches, enfin les premiers hémistiches de chaque alexandrin, regarde, lui dit-il, et puis je t'aime, lui dit-elle. Et puis le contraste entre les deux hémistiches finaux, qui est concentré sur la rime très riche, quand même, la lire et pas lire. Rien de plus opposé à la lire que le fait de ne pas savoir lire. Bref, le comique est là, verbal, mais il réside aussi dans le contraste visible et manifeste dans le tableau. Entre la proximité physique et affective des deux personnages, hein, qu'on voit, la bergère, si c'en est une, pose la main sur l'épaule du berger, et l'opposition entre deux états d'esprit. Hein, c'est le fossé à l'intérieur du couple. Hein. Et donc, ce sont des paroles qui vont contre ce que semble dire a priori le tableau, à savoir la proximité des deux personnages. Alors, en fait, on est ici peut-être moins dans l'interprétation que dans le détournement ironique. C'est un peu comme avec la publicité pour le parfum. Mais un détournement qui est là, non pas pour appâter le chaland, mais simplement pour faire rire, pour créer une parodie gratuite et pour rendre hommage à un classique. C'est la plus belle hommage qu'on puisse faire à un classique, c'est de le détourner, de le rendre amusant quand il n'est pas amusant, quand il est tragique. D'autant que chez Toulet, la parodie, l'humour, la satire sont toujours très, très présents. Alors voilà, ce serait une façon d'interpréter le tableau, donc en rabattant ce que disent les personnages sur une sorte de quotidien qui serait le nôtre. Et puis il y aurait une autre façon de faire, mais je reviendrai sur Toulet la prochaine fois, qui consistera plutôt à aller ailleurs, vers une transcendance, quelque chose où le tableau nous indiquerait quelque chose qui serait tellement éloigné de notre quotidien que nous en serions totalement ébahis et ébobis. Ben, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Mais avant de vous donner rendez-vous à la semaine prochaine, je voulais aussi vous dire ceci. J'aime bien entamer un dialogue aussi avec les auditeurs, les auditrices du cours. Et alors, parfois nous discutons dans la pause ou après le cours, et c'est bien et c'est normal. Mais je voudrais refaire le système de Roland Barthes pour les questions ou les remarques d'auditeurs. Roland Barthes demandait à ses auditeurs et auditrices de déposer sur la table avant le cours, éventuellement s'il y avait des questions, des papiers avec des questions, des remarques, des commentaires, etc. Et après, lui-même, dans les séances ultérieures, répondait ou ne répondait pas à ces questions. Je vous invite à faire la même chose si vous avez si vous voulez entamer le dialogue, etc. Ça peut se faire ainsi. Donc, s'il y a des papiers la prochaine fois sur la table, je ne serai pas étonné. Je les lirai attentivement. Voilà. Merci et rendez-vous la semaine prochaine.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.